Notre sujet ce matin, vous l'avez lu, est celui-ci, vie de foi et de victoire. Et nous avons ajouté cette précision, aspect pratique. Nous venons de chanter « il vit en moi ». Le Christ vit en moi. Et cela, tout de suite, nous met en bonne direction de la pensée que nous allons développer ce matin. La vie chrétienne, c'est une vie. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement d'avoir quelques connaissances sur la doctrine chrétienne, il s'agit de vivre l'Évangile. L'Évangile nous a été donné pour être vécu. S'il n'est pas vécu, l'Évangile nous a été donné. C'est peut-être extraordinaire de le dire, il ne sert à rien s'il n'est pas vécu. Il nous a été donné pour être vécu. Le Seigneur Jésus, vous le savez, a mis l'accent sur la mise en pratique de la parole de Dieu, principalement de la parole qu'il a annoncée, lui, dans son office de prophète. Le Seigneur Jésus a rempli trois offices, celui de souverain sacrificateur, celui de prophète et celui de roi. Donc, mettre en pratique, vivre, voilà ce que Dieu attend de nous. Et puis, si nous vivons l'Évangile, c'est que nous avons devant nous une espérance. L'espérance est une très grande chose. Notre espérance, c'est Jésus-Christ. Cela est écrit textuellement. Et si notre espérance est Jésus-Christ, c'est que notre espérance est aussi la vie éternelle, puisque celui qui a le Fils a la vie, et celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. La vie, il s'agit bien sûr de la vie impérissable dont tout croyant doit avoir en lui le principe. Être chrétien, être croyant, c'est avoir en soi le principe agissant de la vie impérissable, la vie véritable. La vie véritable, dont le grand caractère est d'être éternel, mais le fait qu'elle est éternelle apparaîtra plus tard, mais pour l'instant, elle est cette vie éternelle est la vie authentique, la vie véritable, la vie de Dieu. La vie présente du chrétien, et c'est ça donc qui importe, c'est la vie qui importe, ce ne sont pas nos réunions, ce ne sont pas nos rassemblements, nos locaux d'église, et ce que nous y faisons qui importe. Ce qui importe, je le répète, c'est de vivre la vie nouvelle, la vie chrétienne. Eh bien, cette vie chrétienne présente se nomme dans la Bible la marche chrétienne. Et c'est de cette marche chrétienne que nous voudrions nous entretenir ce matin. C'est à ce sujet que nous voudrions méditer. Car en effet, pour que l'Évangile soit vécu, il faut que cette marche chrétienne, à travers le temps que Dieu nous laisse, nous donne, il faut qu'elle soit l'objet de nos soins les plus attentifs et de notre constante préoccupation. On ne peut pas négliger la vie chrétienne. Elle doit être l'objet de notre préoccupation. Il faut qu'elle soit dans notre pensée sans cesse, pour que nous entrions dans la réalité de la vie véritable, de la vie nouvelle. Vivre la vie de Christ, vivre la vie de Dieu, dans ce temps, maintenant, dans ce monde, ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Quand on l'examine, quand on y pense, on se dit, mais est-ce possible? C'est fantastique. Oui, c'est possible. C'est possible. Tout à fait possible. Donc nous disions que les vrais croyants, ceux qui ont donné leur cœur au Seigneur Jésus, connaissent dès maintenant la vie véritable, la vie éternelle. Elle est véritable et c'est une vie impérissable qui ne se perd plus. Et ils doivent la manifester. Il faut manifester cette vie. La vie véritable étant le plus grand de tous les biens que l'on puisse posséder. Quelqu'un pourrait me dire, mais le bien le plus grand, n'est-ce pas Dieu lui-même, n'est-ce pas de pouvoir un jour être en sa présence, le voir, le contempler? Oui, certes, rien n'est au-dessus, on ne peut rien placer au-dessus de Dieu, mais si nous ne vivions pas, nous ne pourrions pas voir Dieu. Par conséquent, pour voir Dieu, il faut vivre. Et je sais pourquoi je dis le plus grand de tous les biens, c'est la vie véritable, la vie éternelle. Et cette vie, nous est-il dit dans la Bible, est suspendue à la foi. Je voudrais vous lire maintenant un passage de l'Écriture dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10 et au verset 37. Chapitre 10, verset 37 de l'Épître aux Hébreux. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Mon juste vivra par la foi. C'est Dieu qui parle ici, qui s'exprime. Mon juste, celui que j'ai fait juste, celui que j'ai justifié. C'est ça, le juste de Dieu. Mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Et cela, le prophète Habacuc, quelques 5 siècles et demi ou 6 siècles avant la venue de Jésus, l'avait proclamé pour le temps de l'Église. Habacuc avait dit, son âme est enflée, l'âme de l'homme s'est enflée, c'est vrai que l'orgueil est bien à la racine de tous les maux, de tous les péchés, son âme s'est enflée, mais le juste vivra par la foi. Voilà donc un grand principe qui nous vient de loin et qui est repris dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament le cite d'ailleurs 3 fois. Alors, nous sommes en présence de la foi, vivre par la foi. Nous ne le pouvons pas autrement. Autrement, nous serions enfermés dans une impossibilité. Ce serait un paradoxe qu'il ne serait absolument pas possible d'envisager. C'est par la foi. C'est donc par un moyen, la foi étant appelée un moyen, c'est donc par un moyen surnaturel que nous pourrons vivre la vie nouvelle. Alors, nous allons parler un peu de cette foi. Vous savez que beaucoup de chrétiens se méprennent au sujet de la foi. Beaucoup simplement se contentent de penser ou de dire « Oh ben moi, je crois ceci, je crois cela, je crois que Jésus est le Fils de Dieu, je crois qu'il est venu, je crois à tout ce qui a été relaté dans les évangiles, j'y crois fermement, oui, je crois à tout, oui, c'est bien. » Et ils pensent que ça, c'est la foi. Non, ça ce n'est pas la foi, c'est une croyance qui est certes bonne, il faut bien admettre tout ce qui a été écrit dans le Saint-Livre, pour nous, il faut y attacher une certitude, certes, mais ce n'est pas encore la foi. Ça ne peut être qu'une foi d'idée, une foi de pensée, une foi d'idée, qu'on appelle quelquefois une foi conceptuelle, de conception. La conception, on a la conception. Et puis on s'arrête là. Alors je dis, ça n'est pas la foi. Ça n'est pas la foi qui permet de vivre cela. La foi est quelquefois aussi, pour certains chrétiens, le moyen occasionnel, de solliciter le secours ou l'aide de Dieu, quand le besoin s'en fait sentir. Alors là, on demande à Dieu et on dit, ben, j'ai la foi, Dieu va me répondre. Mais quand le besoin a disparu, qu'on a le secours, on l'a ou reçu, ou en tout cas que la difficulté s'est évanouie, alors la foi, elle aussi, s'évanouit, on la laisse de côté, et on ne pense plus à tous les objets de la foi. On ne pense plus, en tout cas, que la foi doit nous conduire dans la réalité de la vie. La foi, qu'est-elle alors? Si elle n'est pas ce moyen occasionnel, si elle n'est pas une simple conception, qu'est-elle? Eh bien, la foi véritable, celle dont parle le Seigneur Jésus, avec le verbe croire, ou avec le substantif foi, eh bien, c'est une relation personnelle du croyant avec Dieu, une relation. Le mot religion a pris des sens bien éloignés de son étymologie. Par son étymologie, il signifie relation. Relation. La véritable religion, c'est donc une relation du croyant avec Dieu par Jésus-Christ. Par Jésus-Christ, comprenons tout de suite la chose, elle est simple. Jésus-Christ était, avant de venir sur cette terre, ce maléaque, dit l'Ancien Testament, qui se tient, c'est-à-dire ce messager qui se tient devant la face de Dieu. Il nous est présenté aussi dans le début de l'évangile de Jean comme la parole de Dieu faite chair, qui est devenue homme, la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, donc, dans le début de Jean, est un être divin que nous sommes obligés de différencier de Dieu le Père, mais nous savons pourtant que Dieu le Père et Dieu le Fils sont un seul et même Dieu. Nous abordons là, évidemment, ce qu'on appelle la Trinité, peu importe le mot qu'on lui accorde, mais en tout cas, c'est une chose qui devient satisfaisante lorsqu'on va beaucoup plus loin dans la connaissance de la vérité. Ainsi, une relation avec Dieu. Par Jésus-Christ, c'est en somme notre humanité qui peut se brancher sur l'humanité de Jésus. Et dans la personne de Jésus, il y a cette humanité, mais il y a la divinité aussi, donc le rapport étroit avec le Père. Je pense que quelques-uns de vous connaissent la prière sacerdotale de Jean 17. « Qu'il soit un, dit le Seigneur, comme toi et moi, nous sommes un. » Voyez-vous ? Voilà quelque chose qui ne se discute pas, c'est de la révélation, c'est la vérité révélée. Ainsi donc, relation personnelle. Lorsque nous nous convertissons à Jésus-Christ, nous entrons dans cette relation personnelle. Et c'est cette relation, donc, personnelle par, avec Dieu par Jésus-Christ, qu'il va falloir soigner. Disons encore que la foi est une puissance de vie. Et entrant dans une relation avec Jésus-Christ, comme le dit la première épître de Jean, nous avons Jésus-Christ. Si nous sommes en relation avec lui, nous avons Jésus-Christ. Et si nous avons Jésus-Christ, nécessairement nous avons la vie véritable. La vie véritable vient avec lui. Elle est inséparable de lui. Le chapitre 5 de Jean nous le dit, « Comme le Père a la vie en lui-même, il a donné au Fils d'avoir aussi la vie en lui-même. » Donc, la foi, qui est ce moyen, cette puissance que Dieu met en nous, que Dieu a mis en nous, il a mis en nous l'aspiration à l'éternité. C'est une chose que nous avons en nous, comme nous avons des oreilles, des yeux. Le Seigneur Jésus a fait d'ailleurs une comparaison entre l'ouïe, la vue et la foi du cœur. C'est du même ordre, si vous voulez. Ce n'est pas un sens physique, c'est un sens spirituel qui est en nous, mais ce sens spirituel nous permet de saisir, c'est le mot de la Bible. Paul dit à Timothée, saisis la vie éternelle. C'est de saisir la puissance de vie. Voilà, la foi donc permet de saisir une puissance de vie et de participer à la puissance illimitée de Dieu, je n'exagère rien. Participer à la puissance de vie et la puissance de Dieu. Il y a en effet une déclaration du Seigneur Jésus dans Matthieu 17, 10. Si vous aviez de la foi, comme un grain de senevé d'un côté, ou si vous aviez la foi qui convient, vraiment la foi, rien ne vous serait impossible. C'est écrit, c'est consigné, c'est indiscutable. Rien ne vous serait... Or, rien n'est impossible à qui ? À Dieu. Donc, la foi permet d'aller jusque-là, la puissance illimitée de Dieu. Bien sûr, pas pour faire n'importe quoi. C'est Dieu qui utilisera cette puissance qu'il met en nous. Mais si Dieu nous charge de quelque chose, nous pourrons le faire avec cette puissance illimitée de Dieu. Donc ne disons pas « je ne peux pas, je n'y arriverai pas ». Alors là, nous sommes en contradiction avec l'Écriture qui, elle, est beaucoup plus généreuse, vous le voyez, pour nous-mêmes. La foi a devant elle, elle a au-devant d'elle, la vérité absolue révélée par Dieu. La vérité, c'est-à-dire, la vérité, qu'est-ce que c'est que la vérité ? Qu'est-ce que c'est que la vérité ? Essayons d'y répondre, de répondre à cette question d'une façon simple et suffisante pourtant. Eh bien, la vérité, c'est ce qui doit être selon la volonté de Dieu. S'il y a dans la volonté de Dieu une chose qui doit être, voilà la vérité. Alors, essayons d'être maintenant un peu plus, si vous voulez, proche de notre vie chrétienne. Disons que la vérité, nous allons la trouver dans la personne du Seigneur Jésus, la vie du Seigneur Jésus, la puissance, la sagesse, l'intelligence, la sainteté qui se sont révélées dans la personne même de Jésus quand il était sur la terre. Eh bien voilà la vérité. La vérité, c'est cela. Donc, regardons Jésus vivre, marcher, parler, c'est la vérité. Et la foi, donc, a devant elle cette vérité. C'est pourquoi la Bible nous dit, mais ce qu'il faut, c'est que vous suiviez le Seigneur Jésus, que vous marchiez comme il a marché lui-même étant sur la terre, que vous le preniez comme exemple. Voilà la vérité. Si vous le prenez comme exemple, si vous marchez comme il a marché, vous êtes dans la vérité. Et on peut dire comme Jean, dans sa troisième épître, qui s'adresse à d'autres chrétiens, eh bien, j'aime un tel qui marche dans la vérité. Marcher dans la vérité. J'ai encore vous dire quelques petites choses sur la foi, parce que c'est tellement important, cela. La foi, elle répond à l'appel de l'esprit. Quand la foi, elle est dans le principe de la foi, c'est-à-dire le départ, le jaillissement de la foi, se trouve en nous, dans ce qui est appelé notre cœur, pas le cœur physique naturellement, mais l'être intérieur. Paul parle de l'être intérieur, la Bible parle même des entrailles. Eh bien, en nous-mêmes, n'est-ce pas, il y a le principe de la foi, c'est-à-dire il y a la source de la foi. Il y a un sens, ce sens, tout à l'heure j'en parlais comme d'un sens, un sens qui ne demande qu'à s'éveiller, qui ne demande qu'à se manifester, à condition qu'il ait devant lui les objets que Dieu a préparés d'avance, et le grand objet qu'il a préparé, c'est son Fils, ayant vécu sur la terre, son Fils crucifié, ressuscité et glorifié. Voilà le grand objet de la foi. Alors quand on laisse en soi liberté à la foi, si on ne la retient pas, si on ne se contient pas, si on ne raisonne pas pour la museler cette foi, mais si au contraire on veut rester vrai, libre, alors la foi, entendant l'Évangile, entendant la parole de Dieu, entendant l'appel de Dieu, la foi se précipite. Elle se précipite et elle saisit le Seigneur Jésus. Donc, la foi répond à l'appel de l'Esprit. L'Esprit sollicite, et l'Esprit sollicite tout homme, toute femme qui ne s'emprisonne pas dans l'orgueil. Dieu résiste aux orgueilleux, je ne peux pas vous dire le contraire, ça, si, n'est-ce pas, on reste dans l'orgueil humain, si on veut absolument se manifester par l'orgueil humain, alors là, on se coupe nécessairement de Dieu. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait droit aux humbles. Il fait droit à tous ceux qui sont humbles. Et alors, l'Esprit les sollicite. Et l'Esprit leur permet d'entendre la parole, ou de la lire peut-être, dans l'Évangile, et la foi du cœur, immédiatement, alors là, s'éveille, s'élance, et saisit la vérité. Et puis, enfin, je voudrais, alors, d'un point de vue peut-être plus pratique encore, vous dire ces quelques petites choses sur le terme croire, ou plus exactement, le fait de croire. La foi, c'est bien le fait de croire, croire. Mais le mot croire est employé souvent, le Seigneur Jésus l'a employé. Alors disons que croire dans la pensée de Jésus, c'est abandonner, d'abord, abandonner nos propres pensées, nos propres vues, nos analyses, raisonner en dehors de l'Évangile, nos illusions. Vous savez que généralement, quand justement il n'y a pas eu cette relation, elle ne s'est pas faite par la foi entre nous et Dieu et Jésus-Christ, alors nous sommes enclins, moi j'ai été comme ça, et je suis sûr que l'ami Valliccioni a été comme ça aussi, n'est-ce pas ? Eh bien, on discutait de choses sans savoir. On parlait de Dieu quelquefois, on parlait de Jésus-Christ, dans un sens, dans l'autre, mais enfin, on discutait du monde, on discutait de religion, on discutait de philosophie, d'un tas de choses, sans savoir. Eh bien, là, n'est-ce pas, croire, c'est abandonner tout ce fatras. C'est abandonner tout cela, nos illusions, nos analyses. C'est nous laisser informer par l'Esprit de Dieu. Nous laisser informer par l'Esprit. C'est nous laisser élever au-dessus des choses terrestres. Élever notre pensée au-dessus du terre-à-terre, au-dessus des choses terrestres, au-dessus de ce qu'on dit, de ce qu'on rapporte, de tout ce qui fait, en somme, le grand colloque des hommes de la terre et qui remue un tas de choses absolument vaines et fausses dans lesquelles la vérité n'a aucune place. Donc, c'est nous laisser élever au-dessus des choses terrestres. C'est rester suspendu à la volonté de Dieu et c'est vouloir aller jusqu'au bout. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, a dit le Seigneur. Et en somme, essayons de condenser encore un peu plus. Nous pourrions dire ceci, être dans la foi et avoir Jésus en soi, c'est une seule et même chose. Avoir la foi, c'est avoir Jésus en soi, c'est être en relation avec Jésus, et comme je le disais au début, c'est avoir Jésus, donc avoir la vie éternelle. Vous voyez, voilà donc le rôle éminent de la foi pour la vie chrétienne. Alors, je reviens d'une façon un peu plus prosaïque peut-être, à la vie chrétienne. La vie chrétienne, nous avons dit que c'était une marche à travers le temps. Nous sommes là, bon, nous sommes arrivés aujourd'hui au 20 mai, où nous avions rendez-vous, depuis assez longtemps, bon, nous avons marché dans le temps et nous sommes arrivés. Demain, je ne sais pas ce que nous ferons, après-demain, nous savons peut-être un peu, mais nous ne savons pas tout. Nous ne savons pas les circonstances qui se présenteront devant nous et auxquelles il faudra que nous donnions réponse. Nous ne savons pas, parce qu'il y a un tas de choses que nous ignorons pour ce qui est de l'avenir, même du proche avenir. C'est marcher, ça. Et c'est une marche chrétienne. Mais il faut affronter le temps en disciple du Seigneur Jésus, c'est-à-dire en celui qui est ou celle et qui est en relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est cette marche, la vie chrétienne, qui est une marche, cette marche se fait donc dans une foi, par une foi constante, une foi vigilante et constante. Je pourrais dire que la marche chrétienne exige trois choses. Nous allons voir rapidement. La première, c'est une surveillance. Quel est le chrétien qui peut me dire, moi je vis ma vie chrétienne comme ça, m'en occupe pas, je ne m'en préoccupe pas. Ça, je douterais. Une surveillance. Deuxième chose, une maîtrise. Nous allons dire de quoi ? Une maîtrise. Et troisième chose, une lutte. Voilà la vie chrétienne essentiellement, surveillance de chaque instant, maîtrise de soi et lutte pour mener le bon combat de la foi, ce qui est appelé le bon combat de la foi, et bien retenir la vie éternelle, c'est-à-dire rester dans la relation avec Jésus. Je le répète, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Et pour avoir le Fils, il faut que je reste en relation avec lui. Et nous avons lu dans l'Épître aux Hébreux que mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. S'il se retire, c'est-à-dire s'il cesse cette surveillance de chaque instant. Il y a des ennemis. Paul en parle dans Éphésiens chapitre 6, ce sont des dominations, des autorités, des esprits méchants dans les lieux célestes. C'est ce que Jésus a appelé aussi le démon, carrément. C'est ce qu'il a appelé le dieu de ce siècle. le prince de ce monde, le diable. Le diable. Eh bien, le diable qui n'est pas seul d'ailleurs, puisqu'il nous est présenté dans le chapitre 12 de l'Apocalypse, en particulier, il nous est présenté comme ayant des anges. Il y a beaucoup d'assesseurs avec lui, le diable. Eh bien, donc, nous avons des ennemis. Et ces ennemis, il faut les combattre naturellement. Alors, nous aurons à les combattre. Cela, nous voyons comment, dans le chapitre 6 des Éphésiens, je ne m'y arrête pas, combattre par la foi, par tout ce que Dieu met à notre disposition, le bouclier de la foi, la justice, si nous sommes attachés à la justice et à la justification que nous avons reçue, la justice de Jésus-Christ qui est pour nous un vêtement, un revêtement, alors là, nous lutterons efficacement contre ces ennemis. Et puis nous lutterons aussi contre la chair. Évidemment, les tendances de la chair, c'est-à-dire de l'homme naturel, qui cherche à remonter à la surface, qui attendent leur temps. C'est curieux parce que le diable, après avoir tenté le Seigneur Jésus dans le désert, se retira, est-il écrit, il se retira pour un temps, jusqu'à une occasion favorable. Et c'est exactement ce que font en nous les tendances humaines, les tendances de l'homme naturel. Quand il sent que la foi ne lui laisse pas le passage, qu'il doit se taire, qu'il doit rester crucifié, parce que c'est sa place, l'homme naturel, le vieil homme, comme Paul l'appelle, il doit rester crucifié, il n'a plus droit de vie, lui, c'est Christ qui vit en nous. Bon, alors, il se tait. Et puis, s'il sent que un petit passage s'ouvre, s'il sent un peu de lassitude, un petit peu de négligence du côté de l'esprit en nous, alors il revient à la surface, il remonte. Et puis il dit, mais on pourrait peut-être faire ceci, faire cela. Et il va se servir, le vieil homme, de la vie chrétienne, de ce qu'il connaît de la vie chrétienne. Il va se servir d'un tas de choses. Il va paraître, lui, être chrétien. Or, ce vieil homme ne peut pas, lui, faire la volonté de Dieu. C'est écrit, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a contraires à ceux de la chair, pour que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Ça, c'est écrit dans Galates. Alors, la chair, par conséquent, il faut la tenir, museler. Donc, nous disions qu'il y avait une surveillance de chaque instant. C'est ce que le Seigneur Jésus a appelé veiller. Dans son conseil de veiller et prier sans cesse, veiller et prier sans cesse, il y a cela. Ça veut dire attention, attention, comme il l'avait dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'est Jésus qui a dit cela. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Attention. Alors, veillez, veillez. Déjà, la vigilance, c'est à ce niveau. C'est là. Il faut veiller, parce que, je viens de vous le dire, n'est-ce pas, les tendances de la chair vont essayer de revenir. Donc, une surveillance de chaque instant. Ne croyez pas que cette surveillance soit d'ailleurs quelque chose de pénible, parce que si on la mène comme il faut, par la foi, elle devient d'une extrême facilité. Je vous dirai d'ailleurs, c'est un peu une digression que je fais là, que la vie chrétienne, vécue comme elle doit l'être, comme nous sommes en train de l'envisager maintenant avec la parole, eh bien, cette vie chrétienne est facile. C'est la vie demi-chrétienne, la vie sans une vigilance suffisante, c'est celle-là qui est difficile. Parce que, alors là, il y a un achoppement continuel entre la chair et l'esprit. Et c'est quelque chose de pénible. Et on finit souvent par céder du mauvais côté. Donc, il y aura une surveillance, il y aura une maîtrise de soi. Cette expression « maîtrise de soi » a fait sa réapparition. On s'imagine que les nouvelles traductions ont inventé quelque chose. En réalité, elles ont pris cette expression qui figurait déjà dans des vieilles Bibles. Une maîtrise de soi, c'est-à-dire savoir résister, par exemple, à ce qui a constitué autrefois notre tempérament, l'impulsivité, je suppose. Prends ça comme exemple, l'impulsivité. Hein. Ne pas se jeter tout de suite dans un propos pour répondre à quelque chose, ou alors se jeter dans une décision. « Ah ben on va faire ceci, on va faire cela. » Et puis on n'a pas réfléchi, on n'a pas pesé, on n'a pas vu. La vie chrétienne, ça se vit par le moyen de l'intelligence et de la sagesse spirituelle qui nous est donnée d'en haut. Donc, une maîtrise de soi. Il faut savoir être maître de soi. Arriver à être maître. Ne pas parler d'une façon impulsive et pour dire peut-être n'importe quoi, pour dire une sottise peut-être, n'est-ce pas ? Ou pour quelquefois s'avancer, s'engager d'une façon que, ensuite, on va reconnaître comme étant mauvaise. Moi, ça m'est arrivé, je pense que ça vous est arrivé de dire, oh là là, quelle occasion j'ai perdue, là, j'aurais mieux fait de me taire, j'aurais mieux fait de ne rien dire, c'est pas ça que j'aurais dû dire, si j'avais réfléchi un petit peu plus, n'est-ce pas, vous voyez, la maîtrise de soi, je la vois à ce niveau, mais on la voit, elle va se manifester dans tout le tissu de notre vie. Donc, une maîtrise de soi, et puis alors la lutte, nous en avons parlé, lutte contre les tendances de la chair et lutte contre les ennemis. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Seulement, c'est moi qui ajoute seulement parce que c'est pensé, ça a été pensé, ça n'a pas été écrit. Mais enfin, nous avons à lutter contre la chair et le sang. Mais pas la chair et le sang seulement, mais contre les dominations, les autorités dans les lieux célestes, nous dit l'apôtre Paul dans son chapitre 6 des Éphésiens. Ainsi donc, si quelqu'un n'est pas, ne se surveille pas, n'est pas maître de lui et ne lutte pas, eh bien, c'est celui-là qui va se retirer, et il est dit, mon âme, c'est Dieu qui le dit, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Quand nous avons ceci dans l'Écriture, cela nous montre que Dieu est bien une personne, mon âme, l'âme. Dieu donc se présente comme une personne, mon âme, une personne qui est sensible, une personne qui dispose évidemment de tant de choses extraordinaires. On sait souvent, des gens évidemment peut-être un peu mal intentionnés, se sont moqués un petit peu de ce qui est dit dans l'Évangile en disant « Comment voulez-vous que Dieu sache tout, qui voit tous les hommes, qui cette omniscience, cette omniprésence, moi je peux pas croire à cela. » Mais aujourd'hui, chers amis, avec les ordinateurs et l'essor que ces machines sont en train de prendre, on voit mais que les possibilités sur la terre même, à la disposition des hommes, des possibilités inouïes s'ouvrent. On peut arriver à avoir un fichier de toute la terre, si on le voulait, n'est-ce pas ? Il pourrait être établi, et même assez rapidement, un fichier de toute la terre. On peut connaître un tas de choses. Et les ordinateurs se perfectionnent eux-mêmes continuellement, n'est-ce pas ? Donc, nous voyons là, l'informatique est aujourd'hui un exemple qui nous commande de ne pas mépriser ce que dit l'Écriture. Dieu sait tout, Dieu voit tout, Il faut croire que son ordinateur avait déjà atteint, n'est-ce pas, une perfection que ceux de la terre n'ont pas encore. Donc, Dieu ne trouve plus satisfaction dans celui, l'homme, la femme, chrétien, qui s'écarte de la foi et qui cesse de surveiller sa marche chrétienne et de lutter. Alors, nous avons parlé aussi dans notre titre « Vie de foi et de victoire ». Alors, il faut que nous parlions de victoire. Eh bien oui, vaincre, c'est ça, le satisfecit de la vie, de la marche chrétienne. Vaincre, une vie chrétienne qui est victorieuse, alors ça, c'est magnifique, c'est à ça qu'on doit reconnaître une vie chrétienne. Victorieuse maintenant, mais victorieuse jusqu'au bout. Vaincre. Donc c'est le bon aboutissement d'une marche chrétienne par une foi persévérante et soutenue, une foi soutenue. Alors vaincre, c'est remporter une victoire sur quels ennemis ? Le péché. C'est-à-dire cette séparation d'avec Dieu. Une vie séparée de Dieu, séparée des lois de la vie, des justes conceptions de la vie, comme si on voulait faire marcher une de nos voitures automobiles, là, en dehors des lois physiques ou même chimiques qui régissent le fonctionnement de nos moteurs, n'est-ce pas ? Nos moteurs ont été établis en utilisation des propriétés de la matière, des lois physiques. Bon, et si on voulait faire marcher une voiture en disant « bon, non, on ne peut suivre ça », eh bien, je vous laisse à penser ce que ça pourrait donner, n'est-ce pas ? On pourrait rester à Vintavrenne, là, n'est-ce pas, et on ne s'en irait plus. Ce serait peut-être quelque chose de bon, après tout, n'est-ce pas ? Donc, vous voyez, n'est-ce pas, le péché, c'est sur lui qu'il faut remporter la victoire, mort au péché, dit l'Écriture. Parce que si nous remportons la victoire sur le péché, nous remportons nécessairement la victoire sur la mort, puisque le péché est l'aiguillon de la mort. C'est lui le dard qui fait mourir. Vous savez, j'ai quelquefois eu l'occasion de réfléchir à la vie éternelle avec des moyens en marge, des moyens de raisonnement, d'analyse, en marge de la Bible. C'est pas trop bon comme exercice, ça, je vous le conseille pas, mais enfin, je l'ai fait, quelquefois. Je suis pas le seul, je l'ai fait. Et je me suis dit, voyons, la vie éternelle, nous connaissons la vie sur la terre, c'est une vie éphémère, enfin, tout va vers la mort, la Bible le constate même, le chemin de toute la terre, c'est la mort. La mort du corps. Alors, je me dis, est-ce qu'il y aurait une possibilité, est-ce qu'on peut concevoir une possibilité de vie éternelle? Et on arrive. Bien sûr, ça n'aide pas du tout la foi, mais enfin, c'est un exercice un peu intéressant. Je ne vais pas vous le faire ce matin parce que c'est assez long, mais en supposant, n'est-ce pas, qu'un être humain, par exemple, je vous dis ça brièvement, un être humain puisse se trouver dans un environnement absolument satisfaisant pour sa vie physique, un environnement qui lui procure tout ce dont il a besoin sans jamais faire défaut, et que lui-même, cet être humain, soit capable d'assimiler pleinement ce que lui donne son environnement, eh bien, idéalement, cet être humain pourrait vivre éternellement. Voyez-vous, enfin, je prends un exemple biblique. Abraham, par exemple, qui a répondu à l'appel de Dieu, et il est venu dans le pays de Canaan, et là, voici que la famine se met à sévir. La famine sévit. Il a beaucoup de serviteurs, beaucoup de troupeaux, et puis il n'y a plus rien pour nourrir tout ce monde. Il n'y a plus rien. Alors, que fait-il? Il s'en va. Je ne sais pas ce qu'il a fait de mieux. Il s'est trompé là. Mais enfin, il s'en va, n'est-ce pas? L'Écriture nous montre qu'il s'en va vers l'Égypte, où il y avait de l'abondance. Il s'en va parce que son environnement fait défaut. Hein? Fait défaut. Vous pouvez trouver d'autres exemples aussi où l'environnement ne fait pas défaut, procure tout ce qui est nécessaire à la vie, mais c'est l'être vivant, l'homme, qui ne peut pas assimiler, qui ne peut pas prendre ce que lui donne son environnement. Alors là aussi, il y a une cause de mort. Voyez-vous ? Donc la vie éternelle n'est pas quelque chose d'inconcevable. Déjà, avec notre petit moulin à penser, n'est-ce pas, humain, n'est pas quelque chose d'inconcevable. Mais par la foi, nous pouvons dire, mais la vie éternelle, en effet, c'est la vie véritable, la vie qui ne se perd plus. Et il faut, par conséquent, que celui et ceux qui nous amènent à la mort, le péché, puissent être détruit et, en tout cas, vaincu. La victoire se remporte aussi sur la vaine manière de vivre. La vaine manière de vivre, nous dit l'Écriture, que nous avions autrefois, avant de connaître le Seigneur, la vaine manière de vivre. Et puis, victoire sur le monde. Le Seigneur Jésus dit, « J'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. » Avant plutôt à la fin de son ministère sur la terre, il a déclaré cela, « J'ai vaincu le monde ». Qu'a-t-il voulu dire? Il ne voulait pas dire qu'il a vaincu les hommes même. Il a vaincu ceux qui, actuellement, fait mouvoir et fait agir, fait parler, fait penser les hommes. Tout ce qui est tout ce principe mauvais, n'est-ce pas, il l'a vaincu. Et pour nous, la Bible nous dit dans la première épître de Jean, au chapitre 5, la victoire, c'est notre foi. Je prends ce passage, première épître de Jean, chapitre 5, je lis à partir du verset 3, « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. » C'est ce que je disais tout à l'heure, la vie véritable n'est pas pénible. Les commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu, voyez-vous, un chrétien, c'est quelqu'un qui est né de Dieu. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, c'est-à-dire de ce principe mauvais qui est dans le monde, qui fait mouvoir le monde. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi, de cette foi dont nous avons parlé tout à l'heure. Dans les 7 lettres que le Seigneur Jésus a dictées à Jean, ce sont les seuls documents, d'ailleurs, dictés par le Seigneur Jésus, mais à ce moment-là, le Seigneur Jésus est déjà glorifié, eh bien, les lettres de l'Apocalypse, dans les chapitres 2, les 7 lettres, c'est-à-dire les lettres adressées à 7 églises d'Asie mineure, chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse, le Seigneur montre ce en quoi vaincre consistait, et consiste toujours maintenant. Consistait à cette époque, mais consiste toujours maintenant. Eh bien, je le résume très rapidement, il montre qu'il faut vaincre peut-être une lassitude ou peut-être une sorte de transformation dans le mauvais sens et qui nous amènerait à abandonner le premier amour. Le premier amour, l'amour que nous avons en venant à lui, tout de suite l'amour là, qui vraiment nous embaume notre vie et notre cœur. Alors là, l'abandonner, et pour vaincre, il faut le conserver par conséquent, conserver le premier amour, être fidèle jusqu'à la mort, c'est-à-dire jusqu'à notre mort, déjà, et jusqu'à mourir vraiment à nous-mêmes, jusqu'à mourir à nous-mêmes, et jusqu'au terme de notre vie sur la terre. Fuir l'idolâtrie et la superstition. Fuir l'idolâtrie, la superstition. Écarter l'impudicité, l'adultère. Retenir jusqu'à la fin ce qui a été reçu au commencement. Ça, c'est quelque chose, un principe que l'on devrait souvent rappeler dans les églises, parce que actuellement je vois un peu partout cela, on accepte des choses nouvelles, des interprétations nouvelles, des points de vue que personne n'avait imaginé. On introduit cela avec dans l'Écriture, et naturellement on fausse la parole de Dieu. Mais le Seigneur nous dit de garder, de retenir jusqu'à la fin ce qui a été reçu au commencement, alors que nous étions dans le premier amour. Vaincre, c'est aussi veiller et attendre le Seigneur. Veiller et l'attendre, chaque jour, ça fait partie de la vigilance. Garder la consigne de la persévérance en Jésus. Jésus nous a donné une consigne de persévérer en lui, c'est-à-dire dans une relation avec lui, persévérer en Jésus. Et puis, se méfier et rejeter les faux prophètes et les fausses doctrines. Voilà, ça je l'ai tiré donc des 7 lettres. Ce sont les choses que le Seigneur Jésus, donc déjà glorifié, nous montre comme étant les objectifs, hein, de la victoire à remporter. Voilà, la victoire à remporter, c'est tout cela. Faut pas oublier que le combat et la victoire des chrétiens dépend de la victoire unique et décisive du Christ sur la croix. C'est cette victoire-là qui nous permet d'être victorieux nous-mêmes. Mais cette victoire-là, nous l'avons dans la relation avec Jésus. Si nous sommes avec Jésus, si nous sommes en relation avec lui, il ne va pas simplement nous donner l'enchantement intérieur, l'embaumement intérieur de sa présence. C'est beaucoup, certes. Il ne va pas être là simplement pour nous réjouir, que nous soyons dans la joie et dans la paix. C'est beaucoup, mais il va être là pour nous donner aussi sa victoire et la puissance de sa victoire. Celui qui vaincra héritera ces choses, et c'est sur ce mot que je terminerai, celui qui vaincra héritera ces choses, les choses qui sont annoncées dans le chapitre 21 de l'Apocalypse. Celui qui vaincra héritera ces choses, je serai son Dieu et il sera mon fils. Voilà, chers amis, la vie chrétienne, vie de foi et de victoire. Prenons donc conscience de l'importance considérable de la vie chrétienne, sur laquelle doit porter notre attention, notre surveillance, pour laquelle aussi nous manifestons une maîtrise de nous-mêmes. Et nous n'oublions pas non plus de lutter, de lutter. Eh bien, moyennant cela, notre vie chrétienne va aller en progressant, elle va nous conduire dans des progrès, dans ce que la Bible appelle le perfectionnement des saints. Des saints de l'Église, c'est-à-dire des membres de l'Église, le perfectionnement, être engagé, aller plus loin dans le perfectionnement. Et nous connaissons, par l'histoire récente des Églises, nous connaissons des communautés, en Angleterre particulièrement, qui, au cours du, le 19e siècle, ont pu aller très loin dans la vie chrétienne et se sentir alors entièrement dégagés de tout ce qui pouvait nuire à la foi, dégagés. Le Seigneur Jésus nous a dit « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et rien ne pourra vous nuire. » Et parvenir à cela, n'est-ce pas merveilleux? C'est déjà être à la porte de l'éternité. Que Dieu nous le permette à tous. Amen. Amen. Eh bien, nous allons terminer par la prière. Seigneur Jésus, nous bénissons ton nom. Et Seigneur, c'est en ton nom que nous allons vers celui que tu nous as toi-même indiqué comme étant notre Père qui est aux cieux. Et c'est en ton nom, en raison, Seigneur, de ton œuvre, de ton sacrifice, en raison du grand amour par lequel, Seigneur, tu as accompli tout le plan, tout le dessein de notre Dieu, que nous pouvons maintenant nous-mêmes venir vers celui qui a voulu que nous existions, celui qui a voulu que nous soyons créés de nouveau en Jésus-Christ, en son Fils, et que nous vivions par lui. Alors, Seigneur notre Dieu, ce matin, nous te prions instamment de donner à chacun de nous qui sommes ici un regain de foi et de nous permettre, par ton esprit, de remporter victoire sur victoire dans notre marche de chaque jour, pour que nous puissions te plaire, pour que, Seigneur, tu trouves ton plaisir en ce peuple que tu as rassemblé et que tu appelles l'Église de Dieu. Seigneur, nous bénissons ton nom et nous te louons. Amen.